Chapitre 11. Monsieur Guessec ne laissa rien transpirer de ses sentiments pendant plusieurs mois, et quand les Riley voyaient Mademoiselle Thérèse, ils ne cessaient de lui répéter qu'elle s'était trompée. Alors, il ne vient plus à la Garenne ? Si, au contraire, une ou deux fois par semaine. Aliette et lui sont même très bons amis, mais s'il était amoureux, il parlerait. La chose demande de grandes réflexions, même pour un amoureux, et je crois qu'il est de ceux qui raisonnent encore devant le fait accompli. Une chose certaine, dit Madame de Rilly, c'est que, avant l'arrivée d'Aliette dans le pays, Antoine m'avait confié son grand désir de se marier, et j'avais promis de m'occuper de lui. Depuis 5 mois, il n'en parle plus. Il a même rejeté très loin 2 projets que je lui ai soumis. « Bon indice !» répondit Mademoiselle Thérèse. Monsieur Guessec, en effet, depuis qu'il connaissait Aliette, ne pouvait se décider ni à demander la main d'une demoiselle de campagne, ni à prendre un parti. Et souvent, poursuivi par la pensée d'épouser la jeune fille, il appelait à son aide tout son bon sens pour se combattre lui-même. « Ce serait absurde, donner à mes enfants une voleuse pour aïeule, et moi-même, dans quels embarras j'entrerais. D'ailleurs, je serais refusé, malgré l'immense sacrifice qu'on ferait en épousant une femme dans de pareilles conditions. » Néanmoins, cédant à l'attrait qu'il attirait vers la Garenne, il avait pris pour y aller des habitudes régulières et il s'était peu à peu formé entre les jeunes gens des relations très amicales. Mademoiselle de Sarzac, qui, par bonté d'abord, avait combattu l'embarras d'Antoine, trouvait désormais un réel plaisir à ses visites. Appréciant vivement ses qualités de bon sens et d'honnête homme, elle discutait sans cesse avec lui, soit sur des sujets généraux, soit sur leur lecture, et laissait parler librement ses sentiments d'artiste ou ses pensées élevées, car elle était sûre qu'il ne répondrait pas par une fausse note. Quand il ne la comprenait pas, il se taisait, mais ne plaisantait jamais et subissait l'influence d'un esprit très différent du sien. Plus Aliette le voyait, plus elle s'attachait, plus elle s'intéressait à lui, plus elle s'abandonnait, avec confiance, à l'intimité d'une amitié grandissante. « C'est un bon camarade, » disait-elle à Madame de Rilly, qui la plaisantait quelquefois sur son amitié pour Antoine. « Vous ne le trouvez pas un peu rustre ?»« Plus maintenant. D'ailleurs, il y a une qualité que j'ai toujours aimée chez lui. Jamais il ne parle d'une façon commune. » Quelquefois, elle se troublait à l'idée fugitive que le sentiment amical du jeune homme pourrait subir une transformation, mais elle la rejetait aussitôt en se disant « Quel est l'honnête homme qui voudrait épouser une femme dont la famille est si tarée ?» L'impossibilité lui semblait trop complète pour qu'elle s'arrêtât sur un projet d'avenir, et cependant, elle regardait souvent au loin dans sa vie avec inquiétude, avec douleur aussi, lorsque, se hasardant à sonder le fond de ses sentiments, elle les voyait, tout vibrant à la pensée d'être femme et mère. Fidèle à sa première inspiration, M. de Rilly restait neutre. Mais il avait cru loyal de saisir un prétexte pour raconter l'histoire d'Aliette à Antoine, qui répliqua « C'est ce qu'on m'avait dit ». Cette réponse rassura complètement les Rilly, qui parlaient sans cesse ensemble du projet caressé. « Toutefois, laissons-les agir seuls », disait M. de Rilly à sa femme. « L'idée a du bon, mais elle a un côté dangereux et nous ne devons pas prendre de responsabilité. » Alors, si Antoine ne se décide à rien, il faudra qu'il cesse ses visites, car dans le pays, on commence à parler du mariage. Eh bien, nous verrons dans 1 mois. Il doit partir, ce qui dénouera naturellement la situation s'il ne veut pas aller plus loin. Cependant, Madame de Rilly, malgré les recommandations de son mari, voulut connaître un soir les idées de la jeune fille. Aliette rêvait profondément devant la flamme d'un feu vif et clair, et la voyant si absorbée, sa vieille cousine pensait « Évidemment, elle songe à se marier. » « Ma chérie, » dit-elle tout haut, « quelle est votre manière de voir sur le mariage ?» Mademoiselle de Sarzac, bien loin de la Garenne, pensait à sa mère. « Quelles sont mes idées sur le mariage » répéta-t-elle, en remarquant que Madame de Rilly la regardait avec un vif intérêt. « Mais d'abord, qu'il n'est pas fait pour moi. »« Vous ne voudriez pas vous marier ?»« Ce n'est pas ma pensée. Je dis seulement que pas un homme ne consentirait à m'épouser. » Mais si le cas se présentait, insista Madame de Rilly, si un brave garçon ne vous déplaisant pas, vous demandez, que feriez-vous ? J'accepterai, répondit-elle simplement. Quelques jours après cette conversation, Antoine, malheureux, hésitant et comprenant qu'il fallait enfin prendre une décision, partit pour Brest et alla sonner chez Mademoiselle Plouvel. Elle le reçut avec une chaude cordialité qui le mit à l'aise. « Je viens vous demander un conseil, lui dit-il. Vous avez du reste l'habitude d'être consulté ?»« Ah, Dieu oui, et sur les sujets les plus variés. Voyons, mon cher monsieur, qu'y a-t-il ? Vous savez que je vois souvent Mademoiselle de Sarzac ?» Il s'interrompit avec embarras et Mademoiselle Plouvel, avec sa rondeur habituelle, termina la phrase. « Et vous la trouvez charmante, et la pensée vous est venue de l'épouser ?» Je vous en félicite. Attendez, attendez, je ne suis pas décidé, répondit-il avec un peu d'effroi. Et puis, accepterait-elle ? Ceci, je n'en sais rien. Vous l'apprendrez en le lui demandant. Elle est dans une situation si particulière, si fausse. Comment ne pas hésiter tout en l'aimant ? Il est vrai que je n'ai ni frère ni sœur qui puisse m'adresser des reproches. Une mère en prison, un père qui vit on ne sait comment, telle est la situation. C'est net et désagréable. Il faut en prendre son parti immédiatement ou rester tranquille. On voit bien que vous n'êtes pas à ma place, s'écria-t-il d'un air désolé. S'il n'y avait que la question de dot. À ce sujet, je puis vous dire ce que Madame de Rilly, qui est bien la meilleure des créatures, m'a appris l'autre jour. Elle et son mari aiment désormais Aliette comme leur fille. Ils n'ont pas d'héritier direct et ils lui laisseront leur propriété plus des valeurs qui représentent environ un revenu de 4 000 francs, le reste de leur fortune est en rente viagère. Elle vit qu'Antoine écoutait avec plaisir et continua. Si Aliette consentait à utiliser son talent dans ce pays-ci, je ne dis pas en donnant des leçons, mais en se faisant entendre comme artiste, elle ajouterait certainement au revenu du ménage. Et elle serait d'autant mieux vue, mieux reçue partout que les Rilly l'appuient. Ce sont des considérations qui doivent entrer dans la balance. Ces considérations, Antoine les avait pesées, retournées, bien des fois, et il était heureux qu'on les lui mît encore sous les yeux. « Enfin, reprit-il, je ne voudrais pas que ma femme rougît de moi. » Aliette n'épousera jamais un homme dont elle croirait pouvoir rougir. Je vous assure que sa pensée plane un peu plus haut. Si c'est ainsi que vous la jugez, je vous conseille de vous en aller, de ne plus penser à elle et d'épouser un bon pot-au-feu dans des conditions normales. « Vous parlez avec chaleur, » répliqua Antoine un peu piqué. « J'aime cet enfant. Je lui voudrais un appui pour la vie, les affections naturelles qui guériraient son âme si pleine de douleur. » Et cela m'impatiente, je l'avoue, de voir qu'un homme qui songe à l'épouser soit flasque, hésitant, tout en prétendant l'aimer. Abstenez-vous, croyez-moi. Il est bon que les questions d'intérêt personnel soient débattues, mais bon Dieu, qu'un peu d'amour généreux le dépasse, ou bien qu'on ne se mêle pas de franchir l'ornière banale. Bien que le discours ne fût pas flatteur, il fut prononcé avec tant d'élan et de véhémence qu'Antoine ne put s'empêcher de sourire. « Vous riez, vous trouvez que je suis une vieille femme bien jeune ? Non, je ne voudrais pas que vous fissiez une démarche inconsidérée, et je comprends que ce qui me paraîtrait aisé avec ma nature et mes idées vous semble très difficile. Mais alors, je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de fuir cet amour raisonné qui est, je crois, un amour de tête ou d'imagination que l'absence guérira vite. Je l'aime plus que vous ne croyez. Alors, grand Dieu ! Mais non, je vous ai dit ma manière de voir et je n'ai rien à ajouter. Elle trouvait très légitime la lutte que soutenait le jeune homme, mais s'il lui était sympathique, elle voyait maintenant que le calcul de M. Guessec était tellement en équilibre avec son amour qu'il eût suffi d'un poids bien léger pour emporter le plateau. « Alors, vous me conseillez sérieusement d'abandonner mon projet ?»« Absolument. Dans la situation d'Aliette, il faut, pour l'épouser, un amour plus qu'ordinaire et le vôtre ne me paraît pas être dans les conditions voulues. » Antoine, venu avec l'espoir d'obtenir un conseil différent, se retira très contrarié et assez froissé. « Évidemment, se dit-il, elle ne me trouve pas digne de Mademoiselle de Sarzac. » Mais il n'était pas convaincu que le conseil fût bon, et en se rappelant les rapports de plus en plus amicaux qui existaient entre lui et Aliette, il pensait que Mademoiselle Plouvel s'égarait. Elle m'apprécie, à présent que j'ai perdu vis-à-vis d'elle mon embarras. Et combien de fois lui ai-je entendu dire qu'elle voudrait passer sa vie entière au fond de la campagne ? Aussi, tout en raisonnant, Mademoiselle Thérèse lui semblait de plus en plus absurde, et la discussion que son amour-propre soutenait avec le conseil qu'elle lui avait donné produisait dans son esprit une conviction en faveur de ses désirs. Le soir, il dînait à la Garenne. Il y arriva par un froid intense. Tous les volets du vieux manoir étaient fermés et jamais il n'avait éprouvé une telle sensation de bien-être en entrant dans le vaste salon où Aliette, assise près d'un grand feu brillant, lisait le journal à haute voix. « Nous pensions que tu ne viendrais pas par ce temps glacé, » lui dit M. de Rilly. « Mon pauvre Antoine, tu dois être gelé. »« D'autant que j'arrive de Brest en carriole, » répondit-il gaiement. L'aimable accueil d'Aliette, dont le visage avait exprimé un vif plaisir en le voyant entrer, l'avait ranimé et réchauffé mieux encore que le feu qui flambait dans la grande cheminée. « Est-ce que Madame de Rilly est souffrante ? » demanda-t-il. « Ma femme a la migraine, c'est Aliette qui sera ce soir maîtresse de maison. » Ce mot rappela à M. Guessec un des détails de sa conversation avec Mademoiselle Thérèse et il eut une sensation agréable. M. de Rilly, observant son air préoccupé, pensa que des idées matrimoniales étaient dans l'air et, après le dîner, sous prétexte de monter auprès de sa femme, il le laissa seul avec la jeune fille. Aliette se mit au piano, mais bientôt elle revint s'asseoir près du feu et, après avoir essayé de causer avec Antoine, elle s'aperçut que, songeur, il répondait par monosyllabes. Elle prit sa tapisserie, le laissa à ses pensées et s'absorba dans les siennes, trouvant un grand charme dans ce silence que rompait seulement le pétillement du feu et le vent qui faisait gémir les ais de la maison. Antoine, lui, se disait « Si seulement elle était orpheline !» Puis, la regardant penchée sur son travail, il reprenait « Qu'importe tout, elle acceptée, elle est charmante et je l'aime. Nous vivrons bien retirés, loin du monde. Mais voudra-t-elle ?» Le souvenir de Mademoiselle Thérèse l'impatienta, et si, plus tard, il avait pu examiner en analyse ses sentiments, il eut découvert qu'une subtile impression d'amour-propre le décida à ne plus attendre. Il se rapprocha d'Aliette et, avec un retour de son ancienne brusquerie, lui dit « J'ai à vous parler d'une chose sérieuse. Voulez-vous m'écouter ?»« Mais je veux toujours bien vous écouter, » répondit-elle en levant les yeux sur lui. « Nous sommes de bons amis, il me semble. »«
Oui, de bons amis, mais voulez-vous... »
Après un temps d'arrêt, il reprit d'un trait «
Voulez-vous que nous soyons mieux que de bons amis ? Voulez-vous être ma femme ? »
Elle le regarda un instant en face, détourna la tête et répondit très bas
« Ma mère est en prison, je porte un nom déshonoré. »
M. Guessec rougit, mais reprit avec fermeté
« Que m'importe, c'est vous que je vois, vous seule. »
Elle ne disait rien et il crut que son silence était un refus. « Malgré tout, vous me trouvez sans doute présomptueux. Vous êtes fine, distinguée, artiste, et moi, je ne suis et ne serai qu'un petit médecin de campagne, élevé dans une ferme, sans ambition et désireux de vivre à l'écart du monde. »«
Quelle femme serais-je donc, s'écria-t-elle, si de telles pensées étaient les miennes ? Quoi, vous, honnête homme, qui consentez à donner votre nom à une pauvre fille qui a connu ce que vous savez, qui ne vous apportera ni dot ni considération, et je n'aimerai pas, je n'estimerai pas celui qui agite avec un cœur si généreux. » Et cédant à son émotion devant l'impression vive du moment et les souvenirs funestes qui se dressaient en masse devant elle, elle cacha son visage en pleurant. Un peu interdit, mais très ému lui-même, il lui dit « Ce que vous venez de dire, c'est bien une acceptation ?»«
De tout mon cœur !»
Il n'avait aucune éloquence naturelle pour exprimer ses sentiments. Toutefois, bien que peut-être il ne la comprît pas entièrement, il sut lui dire des mots affectueux qui la calmèrent. «
Venez, mon cousin, » dit-elle en allant au-devant de M. de Rilly qui rentrait, « venez écouter ce que veut vous apprendre M. Guessec. »
« Je crois que je devine, » répondit-il en souriant. « Mademoiselle de Sarzac consente à m'épouser, monsieur, » lui dit simplement Antoine.
« Eh bien, mon cher ami, reçois toutes mes félicitations, » s'écria-t-il en prenant Aliette par les épaules et en l'embrassant sur les deux joues. « Et je suis bien heureux que cet enfant épouse un brave garçon comme toi. Ah, mais sournois, nous vous guettions depuis quelque temps. Je disais bien tout à l'heure à ma femme qu'il soufflait ce soir un vent particulier. Il faut aller la prévenir tout de suite, Aliette. »
Madame de Rilly oublia sa migraine en recevant la nouvelle qu'elle attendait avec une impatience toujours croissante.
« Mon enfant, nous suivions la marche du sentiment d'Antoine avec un intérêt. Je m'entends bien à ces choses, » ajouta-t-elle avec la naïve conviction que son don d'observation lui avait tout fait deviner. « Que d'occupation nous allons avoir, préparer le trousseau, chercher une maison, car j'espère bien qu'Antoine, maintenant, voudra rester dans son pays. »
Elle entra aussitôt dans une foule de détails pendant qu'Aliette, souriante, essayait d'écarter ses pensées graves pour l'écouter. Mais quand, retirée dans sa chambre, elle put se livrer à elle-même, elle laissa parler tous ses sentiments dans une lettre à Mademoiselle Thérèse.
« Cher, bien cher ami, ce soir, M. Guessec a demandé ma main. J'ai dit oui. » Quelles sont donc, en pareilles circonstances, les impressions d'une femme qui n'a pas connu un abîme de honte? Je les ignore, mais je sais que, moi, je me suis sentie si relevée à mes propres yeux. J'aurai donc ma part de joie, un foyer, une vie d'affection, un nom honorable. J'ai le cœur trop plein, il ne peut s'exprimer. Et tout à ce moment, je voudrais oublier pendant quelques heures jusqu'à cette prison. » Quand il m'a parlé, j'ai pleuré. Je me voyais, sortant de ce Saint-Lazare si navrant et si ensoleillé, perdu dans cette foule si loin de moi et si indifférente. Et voilà que je suis aujourd'hui une femme à qui on demande son cœur, sa vie, une femme qui peut donner le bonheur et recevoir les promesses d'un amour honnête et sincère. Jamais je ne pourrai dire l'impression de bien-être dans laquelle mon âme se repose si vite et si complètement. Comme je comprends ce soir le bonheur qui existe dans les rapports que la reconnaissance établit entre Dieu et l'homme. Je ne sais si c'est une disposition particulière à mon tempérament ou tenant à la nature humaine en général, mais quand un sentiment profond ouvre des horizons à mon cœur et à mon intelligence, il y a un mouvement vif, spontané de ma pensée vers la foi, vers l'amour reconnaissant. Vous m'avez appris que tout ce qui n'a pas touché à Dieu garde avec raison une apparence de petitesse, et j'ai besoin, en effet, de donner quelque grandeur à l'humanité de mes joies et de mes peines en les reliant au divin par un cri de reconnaissance ou de résignation. Adieu. Je voulais vous dire ce que vous seul pouvez comprendre. Maintenant, je vous quitte pour écrire à mon père et lui demander son consentement à mes fiançailles. Aliette. Quand Mademoiselle Thérèse reçut cette lettre, elle répondit aussitôt « Si j'avais pu aller vous trouver, cher enfant, vous seriez dans mes bras pour recevoir mes félicitations. Voici donc arrivé ce que je désirais tant pour vous. » Une vie nouvelle, assise, avec un bras pour vous soutenir et un brave cœur pour vous aimer.
Je ne connais pas de sort plus enviable, et je savais bien que, voyant largement les choses, vous ne seriez pas arrêté par quelques défauts extérieurs. Vous aurez, après tant d'épreuves, votre part de bonheur. Vous serez mère, mon Aliette. Oui, je comprends vos élans, je vous comprendrai toujours, surtout sur ce terrain où vous avez marché à grands pas, parce qu'il était le vôtre, bien avant même que vous eussiez un guide. Venez me voir pour que je vous exprime ma joie avec la tendre affection que vous savez. » Elle écrivit ensuite à Antoine un mot de félicitation et sut le flatter habilement. Le billet arriva fort à propos, car le premier mouvement passé, M. Guessec, quoique satisfait de sa décision, craignait d'avoir cédé trop vite à un entraînement, et son bonheur n'était pas sans mélange d'arrière-pensée.